Silence.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, j'espère que tu vas bien.
Ça va très très bien,
bon,
oui.
Bah, moi ça va pas trop mal, et mes chéris, j'espère que vous allez bien, vous, nos petits auditeurs chéris, à nous. À nous, je dis à nous maintenant, tu as remarqué. Avant je disais à moi, maintenant je dis à nous.
Et donc, on se retrouve là pour parler des films qui sortent cette semaine dans les salles obscures. Et on va débuter avec un film français, me semble-t-il.
Oui, on va débuter avec un film français. Oui, alors, comment tu le sais d'abord, toi, au fait?
Parce que tu m'as donné deux mots.
Je plaisante. Deux mois. Alors, deux mois, oui, mais je le cherche parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Oh, j'ai envie de commencer par un drame historique français, justement, en attendant.
D'accord, de retrouver tes fiches qui sont tombées.
Oui, mes petites fiches qui sont tombées.
Donc c'est mélangé.
Ben, j'ai heurté, je ne sais pas trop quoi, et c'est tombé. En tout cas, ça s'appelle Jeanne. Jeanne. Ah, Jeanne. Mais qui est cette Jeanne? On en connaît une quand même dans l'histoire. Oh oui, hein, on n'en connaît pas 15 000 quand même de Jeanne, si c'est un drame et un film historique.
Jeanne Moreau.
Je ne suis pas sûre que Jeanne Moreau soit encore dans un film historique. Par contre, une Jeanne d'Arc, ce serait possible. Ce serait possible. Alors, ça se passe en 1429. Bon, ben, Jeanne Moreau, t'exagères. Hein. En 1429, Jeanne Moreau, elle n'existait absolument pas.
Mais tu n'avais pas tout dit.
Voilà, même ses parents n'existaient pas, d'ailleurs. Aucune personne de sa famille, en fait, hein, il faut le dire. Enfin, si, des arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière. Hein, puisqu'on vient tous d'arrière-arrière-arrière-arrière. Parents, grands-parents, etc. Donc c'est 1429, la guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d'une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d'Orléans et remet le dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris, où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. S'ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cochon, qui cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie. Bon, ça, on connaît hein, l'histoire de Jeanne, on sait que ça finit comme ça, on ne pourra jamais changer la fin, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est le nouveau film de Bruno Dumont, qui est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français, de 61 ans. Son film a un prix et 5 nominations au Festival de Cannes 2019. Il a le prix mention spéciale du jury, catégorie Un certain regard. Il a déjà eu 55 nominations, il avait déjà 3 prix. Bref, il a beaucoup de prix, Bruno Dumont, beaucoup de nominations. Dans son film, on a Fabrice Lucchini. Alors lui, c'est l'affreux finalement, parce qu'il joue le rôle de Charles VII. Bon, on sait très bien que dans cette histoire, Charles VII a complètement laissé tomber la pauvre Jeanne, alors qu'elle l'avait quand même remis sur son trône. Hein, elle avait, bon, enfin, c'est comme ça. On a Lise, le rôle de Jeanne est tenu par Lise Leplat-Prudhomme. On a Annick Lavieille-Ville et on a Justine Herbez aussi, qui joue le rôle d'ailleurs de Marie. Alors, en fait, Jeanne, en fait, c'est la suite de Jeannette. Jeannette, c'était le premier film de Charles Dumont. Jeannette, qui est passée, c'était. En fait, le vrai titre, c'était Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc. C'est un film musical historique qui est sorti. Il est sorti en 2017, en septembre 2017. C'est ça. C'était, ça se passait à Domrémy, 1425. C'était donc 4 ans avant celui dont on parle là. Elle n'est pas encore Jeanne d'Arc dans ce film, là, dans Jeannette, mais à 8 ans, elle veut déjà bouter les Anglais hors du royaume de France. C'était ça. C'était Bruno Dumont et c'était déjà Lise Le Plat Prudhomme qui avait l'âge du rôle, qui jouait déjà, qui a l'âge du rôle en fait. Hein. Elle est très jeune, hein, Lise Le Plat Prudhomme, qui jouait déjà dans Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc. Donc là, on a Jeanne. Alors, je disais, c'est les deux films, en fait, Jeannette et Jeanne, forment une adaptation d'une pièce de Charles Péguy. Si Jeannette était un film chantant, comme une comédie musicale, Jeanne, cette fois, c'est un film d'action, psychologique, dialogué, parce que porté au débat des batailles et au suspense d'un procès. J'allais dire suspense, c'est suspense d'un procès. Charles Péguy, en fait, nous dit le réalisateur, est un auteur que j'ai découvert assez récemment. J'ai été très impressionnée par son écriture, notamment son chant, sa musicalité. Lorsque j'ai commencé à avoir l'idée de réaliser un film musical, je cherchais un texte réellement propice et je me suis rapprochée de lui et de sa pièce de théâtre Jeanne d'Arc. Voilà ce que nous dit Charles Dumont. Donc, alors après l'enfance, donc Jeanne, c'est la suite. En fait, et ça adapte les deux autres parties, les batailles et Rouen. La difficulté littéraire que l'on peut attribuer parfois à Péguy, nous dit le réalisateur, ne me faisait plus peur parce que l'adaptation cinématographique et musicale apportée me permettait alors d'y remédier et d'établir un équilibre inédit. Alors ce que dit Péguy est parfois fort profond, c'est obscur et c'est contrebalancé ici par la cinématographie des actions, les chansons, la musique qui donne un accès simple à tout, quoi, finalement, facile, léger. C'est, voilà, ça, c'est ce que nous confie Bruno Dumont. C'est ouf. En fait, lorsque Péguy a écrit sa Jeanne, hein, il était vraiment athée, pleinement. Hein. Il avait 24 ans, il était socialiste, universaliste, anticlérical, idéaliste. Et ça se sent dans son texte, ça se sent absolument, quoi. Il a, en fait, il attaque davantage toute église, c'est-à-dire tout dogmatisme. Par ailleurs, Jeanne est une héroïne historique et nationale de la guerre de Cent Ans. Elle transporte naturellement et universellement avec elle un pays et un peuple tout entier. L'histoire de Jeanne d'Arc, nous dit le réalisateur, est ainsi un théâtre qui porterait bien l'humanité tout entière. Au travers d'un récit national, historique et incarné. Voilà, c'est quand même assez ouf. Alors en fait, ce qu'il voulait, le réalisateur, c'est démythifier le plus possible la légende de Jeanne d'Arc. Je suis un grand admirateur, nous dit-il, de l'Évangile, selon saint Matthieu de Pasolini, qui replace le sacré exactement là où il faut, au cinéma. Alors, c'est curieux, ça, parce que, mes chéris, je vais vous faire un aveu, je vais vous confier quelque chose. Dans le cinéma de Pasolini, d'ailleurs, il y a un documentaire qui passe sur Pasolini aussi, hein, actuellement, pour ceux qui aiment ce cinéaste. Dans toute sa filmographie, mon évangile préféré, effectivement, c'était selon saint Matthieu. C'est l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, c'est vraiment extraordinaire, c'était mon préféré. J'ai été ravie quand j'ai lu les articles sur Bruno Dumont et que c'était son préféré aussi. Effectivement, ça pour les gens qui sont un peu croyants, un peu athées, un peu tout comme ça, ça replace exactement le sacré là où il faut, c'est sûr. Hein. C'est tout à fait ça. Le Christ est très propice, très favorable au cinéma, justement, de ce point de vue. C'est-à-dire, l'expérience artistique est la source de l'expérience spirituelle et que pour atteindre cela, Dieu est un très bon personnage, une bonne histoire. C'est aussi pour cela, nous dit le réalisateur, qu'il ne faut pas tant se séparer des bondieuseries. Ce serait bien dommage. Il faut au contraire remettre Dieu dans son théâtre, au cinéma. Eh oui! Donc, c'est pour tout le monde, en fait. Hein. Pour les athées, les croyants, ce film est pour tout le monde. Alors, l'actrice Lise Le Plat Prudhomme, qui incarnait donc Jeanne enfant, Elle est dans ce film en Jeanne adulte, là, cette fois. Et aucune actrice, nous dit le réalisateur incarnant Jeanne d'Arc dans l'histoire du cinéma, n'a eu l'âge exact de Jeanne, ses 19 ans, à sa mort. Elle avait 19 ans hein, quand elle est montée sur le bûcher. Hein. Et oui, parce que quand on voit dans le passé, dans les films sur Jeanne d'Arc, Ingrid Bergman, par exemple, avait 39 ans. René Falconetti, dans le premier Jeanne d'Arc, avait 35 ans. Donc, c'est pas... Alors que, voilà, c'est... Lise avait bien, dans le premier film, 10 ans. C'est un concours de circonstances qui a fait que l'actrice qui jouait Jeanne, adolescente dans Jeannette, ne puisse reprendre le rôle qui, en effet, lui était dévolu. Mais l'idée de prendre Lise s'est imposée comme une révélation. Quand on a vu aux essais ce qu'elle rendait, nous dit-il, surtout ce qu'elle rendait en armure, on a compris qu'elle avait mystérieusement quelque chose d'extraordinaire, une expression très unique de l'enfance et de l'innocence. Et c'est vrai qu'elle est fabuleuse dans ce film, Lise Le Plat Prud'homme. C'est terrible parce qu'on est touché par elle. Et là, franchement, on se dit que la grande injustice, ça a été qu'elle soit... que Charles VII la laisse tomber comme ça, que personne ne la défende, et surtout qu'elle soit livrée aux Anglais par les Bourguignons, alors que c'était une enfant encore, et qu'elle avait fait de grandes choses parce qu'elle était comme ça, parce que Jeanne d'Arc était comme ça. C'était quelqu'un pas comme les autres, elle était différente. C'est ça, quoi, guerrière et... extraordinaire. Mais le film, vraiment, attention, hein, son prix, ses nominations ne sont pas volées. Ça s'appelle Jeanne, ça dure 2h18.
Est-ce qu'on écoute la bande-annonce ?
Ah oui.
Allez.
Rien que pour l'actrice, il faut aller voir ce film, mes chéris.
C'est de votre faute, nous avons perdu la bataille. Vous ne savez pas parler aux soldats. Les soldats, ils veulent se battre. De la guerre, de la victoire, du sang surtout.
Celui qui dit ça, c'est le dernier des hommes.
Parlez, ma fille.
Je voulais vous parler pour vos villes, que les Anglais vont assaillir au-delà.
Laissons cela. Il est temps de vous reposer, enfin.
Je m'en vais commencer la bataille à moi seule.
Seigneur, voici l'accusé.
Elle ira dans l'enfer.
Je requiers expressément.
Avec.
Que le juge la déclare hérétique
et mort d'année.
Sans débat, par défaut.
Avec les condamnés.
Je ne suis pas hérétique, je suis bonne chrétienne.
Alors, elle n'a plus besoin de nous.
Vous soumettez à l'Église tout ce que vous avez fait ?
Mais oui, mon maître, je veux bien, moi.
Tout, sans exception ?
Tout, sans exception.
Sans aucune exception ?
Sans aucune exception.
Jamais on n'a demandé ça à une hérétique.
À condition, bien entendu, qu'on ne parle pas de tout ce que notre Sir Dieu m'a dit et commandé pour moi seul.
Les hommes sont impies. Les hommes sont cruels. Voleurs. Menteurs.
Les hommes sont comme ils sont. Mais il faut penser, nous, à ce qu'il faut que nous soyons.
Voulez-vous désavouer les réponses que vous nous avez faites ?
Quand vous me feriez couper la tête et détraire tous les membres de mon corps, je vous assure que je ne renoncerai jamais à un mot de tout ce que j'ai dit.
Voilà, Jeanne.
Elle est quand même assez extraordinaire, l'actrice.
Ah oui, elle a l'air. Oui.
Oula. Mais c'est-à-dire que, comme il voulait démythifier effectivement l'histoire de Jeanne d'Arc, là, on a l'impression de vivre la véritable histoire de Jeanne d'Arc. En regardant ce film. Alors pour ceux qui sont passionnés par cette histoire, beaucoup de gens sont passionnés par l'histoire de Jeanne d'Arc, par toute cette période. C'est le film à voir là, franchement quoi, pour avoir la véritable histoire et le rôle de Charles VII, qui est un vilain rôle. Ah oui, je parlais de Pasolini, justement, puisqu'il parlait de l'Évangile sur Saint-Matthieu. En fait, ce qui est sorti, là, c'est un drame biopic policier. J'ai dit que c'était un documentaire, mais non, c'est un film. Hein. L'affaire Pasolini, ça s'appelle. C'est italien et français. Et c'est l'histoire de Pasolini qui jouait, puisqu'il est, il est décédé, lui. Hein. Pasolini, il est décédé en 1975. Hein. Il avait 53 ans. Un assassinat, enfin on a jamais su, on a parlé de suicide et de crime surtout. C'est joué par Massimo Ranieri, qui est un grand, grand, grand acteur italien. Et voilà, c'est en fait c'est il avait sorti le dernier film qu'il avait sorti, Salo ou les 120 journées de Sodome. C'était une œuvre qui avait suscité de fortes polémiques, qui a provoqué des débats et on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, il y a eu quelque chose. Il s'est laissé enfermer, Pasolini, dans une terrible machination qui l'a conduit à sa perte, quoi. C'est un truc. Alors, si vous êtes passionné par Pier Paolo Pasolini, ce réalisateur assez extraordinaire, vous avez ce film qui parle de lui, l'affaire Pasolini, qui est pas mal du tout, hein, 1h40. Voilà, c'est ça, c'est pas un documentaire, c'est un film, une fiction. Mais une fiction, un biopic en fait. Hein. Donc c'est la réalité en même temps. Voilà, alors 2 mois. Tu voulais 2 mois, toi Damien, tout à l'heure.
Oui, j'aurais bien voulu.
Voilà, c'est 2, DEX, et moi, MOI à côté. Voilà. Ben oui, oui, j'ai retrouvé ma fiche qui s'était éparpillée quand je suis entrée et que tout est tombé. Effectivement, tu as l'œil, hein, tu es un grand observateur, toi Damien. Je ne pensais pas que tu t'en étais aperçu. Voilà, donc c'est un drame et une comédie. Et on recommence dans les drames-comédies. Le mélange, c'est français, effectivement. C'est l'histoire de Rémi et Mélanie. Ils ont 30 ans. Elles vivent dans le même quartier à Paris. Elles multiplient les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'ils peinent à faire une rencontre. Tous les deux, en fait, ils sont tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l'époque hyper connectée, où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple. Que nenni. Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent 2 routes qui les mèneront dans une même direction. Celle d'une histoire d'amour ? Point d'interrogation. C'est un film de Cédric Clapiche. Oh ben oui, comme on le connaît, Cédric Clapiche. Oh, grand réalisateur, acteur également, scénariste français. Il a 57 ans, il a déjà eu 8 prix, 28 nominations... là, il a une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême, dans la catégorie avant-première en 2019. C'est son 13e long métrage à cet homme-là. Dans les rôles, on a François Civil, qui joue Rémi, on le connaît, Anna Girardot, Camille Cotin, alors on la connaît aussi, Camille Cotin, Hey Haïdira, on a Rebecca Marder, on a Pierre Ninet. François Berléand, Paul Ami, Simon Abkarian, encore lui, Simon Abkarian, on parle beaucoup de lui ces temps-ci, il tourne, tant mieux, c'est un grand acteur. En tout cas, ils sont tous connus. Hein. Si vous allez même peu souvent au cinéma, vous les connaissez quand même forcément, vous les avez vus au moins une fois, ou même à la télévision, dans des films qui repassent constamment, voilà. Donc, vous les connaissez, c'est sûr. Alors, je disais, c'est son 13e long métrage. Il retrouve, en fait, 2 comédiens qu'il connaît bien, lui, avec qui il tourne souvent, François Civil et Anna Girardot. Ils ont déjà joué avec lui, voilà. Alors, il nous dit que 2 mois a été vraiment écrit pour eux, carrément. C'est très rare, ça, quand même. Hein, un réalisateur qui écrit en pensant à précisément 2 acteurs. C'est beau, ça, quand même. Alors, Rémi, il nous dit... Rémi, je n'étais pas sûre au départ que ce soit pour François, qui a un côté solaire et bien portant, qui me faisait me poser des questions quant au côté dépressif du personnage. Et puis, à un moment, en repensant à ce qu'on avait vécu ensemble et au travail que j'avais vu faire sur ce qui nous lie, je me suis dit, n'hésite pas. Bon, ce sera lui, ce sera François Civil. Pour Mélanie, je n'ai jamais envisagé quelqu'un d'autre qu'Anna. Anna Girardot. La complicité qu'on peut avoir avec un acteur, pour moi, c'est le moteur du film. C'est ce qu'il y a eu avec Romain Duris pendant des années. Il ne s'agit pas de la personne, mais de la relation avec la personne. Et quand la relation est au bon endroit, nous dit-il, ça vaut plus que tout et tous et tout. Et c'est ça qu'on filme, justement. On ne filme pas une personne, on filme un rapport. Voilà comment Cédric Clapiche voit le cinéma et les tournages. C'est intéressant d'avoir ce point de vue quand même, qui est pas fréquent en fait. Hein. Ce point de vue est quand même peut-être limité à lui d'ailleurs, hein, à Cédric Clapiche, c'est possible. Alors avec deux mois, Cédric Clapiche voulait faire un portrait de Paris d'aujourd'hui, du Paris en fait, par le biais d'un film simple, centré sur deux célibataires à l'heure des réseaux sociaux. Aïe, 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 le réalisateur explique. Voir si cela change quelque chose, est-ce que l'usage d'Internet et des réseaux sociaux fabrique du lien social? Est-ce que la solitude est toujours la même qu'à l'époque de Chacun cherche un chat? Oui, c'était son film, hein, Chacun cherche un chat. Alors que le constat le plus apparent dans les médias est de penser que nous vivons dans une période de tension, de dépression, de haine et de conflit apparent, j'ai senti que justement dans ce genre de période, il fallait parler du besoin d'amour. Ça, c'était une bonne pensée, monsieur Clapiche. Alors pour filmer deux mois, Cédric Clapiche a collaboré avec une jeune directrice de la photographie. Alors, parce que c'est pareil, c'est son rapport avec elle. Hein. Il adore sa façon moderne d'aborder la lumière et la couleur. Voilà, elle donne du sens à la lumière avec une approche psychologique liée à l'état des personnages. Donc, ça va avec ce qu'il pense, effectivement, de ses rapports avec ses comédiens. Finalement, ça va, ça, hein, c'est dans la même lignée. Raconter une histoire cohérente et fluide tout en conservant une unité sur le ton. Ça, c'était compliqué. Il y a beaucoup de scènes dans le film qui ont ainsi disparu lors de la phase de montage. Par exemple, une scène où Camille Cotin fait de la danse africaine. Alors, Cédric Clapiche se souvient, elle a beaucoup travaillé pour faire cette scène et c'était vraiment hilarant. Ça a été tragique de la mettre à la poubelle. Il n'y avait qu'un endroit où on aurait pu placer cette scène dans le film, mais on a bien compris que on a compris avec Valentin, qu'on n'avait pas le droit de rire de ce moment-là. Bakri et Jaoui m'avaient parlé de ce précepte d'Alain Resnais, qui leur a dit un jour, le grand réalisateur Alain Resnais, hein, qui est décédé il y a très peu d'ailleurs. Il leur a dit, il y a des fois où il ne faut pas faire les malins. Et là, c'était le cas. Il avait dit donc à Jean-Pierre Bakri et à sa compagne, il avait dit ça, quoi, il y a des fois où il ne faut pas faire les malins. C'est assez excellent, ça. Voilà. François Civil, lui, c'est un acteur actif, hein, très actif, puisqu'il est déjà... Il est à l'affiche de 3 films en 2019, François Civil. Mon inconnu, celle que vous croyez, et Le Chant du loup. Voilà. Donc, c'est quand même assez... Eh oui.
Et on le retrouve maintenant avec 2 mois et on écoute la bande-annonce
tout de suite. Merci, dame.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. J'ai un problème de sommeil.
J'ai un problème de sommeil en ce moment.
Parce que j'ai en ce moment, je dors tout le temps.
Je dors pas bien du tout. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur.
D'accord. C'est une question.
Vous dites que c'était une vraie rencontre.
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être.
Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il a pas parlé pendant une heure. Si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse?
Tu te rappelles pas tourner, hein? Karine, tu vas attraper Karine Pélisson.
Ah, elle est grande. Non,
elle était grande.
D'accord, alors...
Brune. Ouais. Brune, elle avait les... Tu sais, elle avait les...
Ah, des boucles, elle avait...
Non, les...
Ah, des dreads.
Non, des soucis dans sa tête.
Ah, mais ça, c'est pas vous, ça.
Ah bon? C'est quoi, moi, alors?
Il y a pesto, et pesto.
Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème.
Excellent.
Ah non, pas ça, ça. Ça, c'est pas vous, ça.
Faites confiance à la vie.
Et vous avez le droit d'être heureux.
Vous avez le droit d'être heureuse.
Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive.
Voilà, deux mois, le dernier clapiche,
sympa,
donc,
hein,
qui sort aujourd'hui.
Sympa, sympa ce film.
Ensuite, on retrouve quoi ?
Un beau casting, en tout cas. Alors, ensuite, eh ben, dis donc, alors, c'est pas à toi que je vais le dire, hein, mais quand même, le titre, c'est « Tu mérites un amour ». Ah, à qui on peut dire ça ? Comédie dramatique, romance, c'est français. C'est de Afsia Herzi. Afsia Herzi, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste française. C'est son premier long métrage. Elle a déjà eu, elle a 32 ans, elle a eu 5 prix 6 nominations pour un court métrage et pour ses talents d'actrice également. Donc là, c'est son premier long métrage. Alors, c'est l'histoire de... Enfin, suite à l'infidélité de Rémi. Ah oui, c'est l'histoire de Rémi et de Lila. Lila, qui l'aimait plus que tout, vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il part tout seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie. Entre discussions, réconfort et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare. C'est, alors, le film a une nomination encore, en plus, elle en avait déjà pas mal, au Festival du film francophone d'Angoulême 2019. Et il a été présenté, ce film, à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2019. Alors, dans les rôles, on a Afsia Herzi, la réalisatrice, qui joue le rôle de Lila. On a Jérémy La Heurte, c'est Rémi. On a Janice Bouziani, pardon, dans les rôles principaux. C'est titré « La révélation du Festival de Cannes ». Tendre et spontané, le portrait d'une génération. Une réussite, un vrai bijou, éblouissant, intensément humain. Il n'en fallait pas plus pour que j'aie envie de vous en parler, mes petits choux, c'est sûr. Parce que quand même, c'est un... En fait, elle a choisi, Afsia Herzi, elle a choisi de s'attaquer au deuil d'une histoire d'amour, car c'est un thème universel. C'est ce qu'elle nous dit, hein. Tout le monde connaît cela. Je raconte l'histoire d'une fille qui essaie de comprendre ce qui lui arrive alors qu'il n'y a rien à comprendre. Après une séparation, il y a le déni, l'espoir, la jalousie, la colère, la perte de contrôle surtout. Lila fait des choses inexplicables parce que la perdition peut amener à la folie. Quels que soient les conseils de son entourage, rien n'y fait. Elle n'écoute pas, ça ne rentre pas. Le cœur reste hermétique, il n'y a pas de remède. Tout dépend de Lila. Elle voudrait qu'on l'aide, mais cela ne servirait à rien. Elle ne doit compter que sur elle et sa volonté de s'en sortir. Voilà, elle a... C'est quand même... C'est beau parce que effectivement, beaucoup de nos... contemporains et sûrement aussi dans nos auditeurs, beaucoup ont connu un chagrin d'amour. On en a connu au moins un dans sa vie, un vrai chagrin d'amour. Parce qu'il y a des ruptures comme ça qui sont légères, mais il y a des vrais chagrins d'amour. Ce que disait un psychiatre une fois, j'avais lu dans un article, il disait que le chagrin d'amour, pour lui, c'est quelque chose de très sérieux, qu'il prend très au sérieux, car ça peut amener à tout. Ça peut amener à la folie, ça peut amener au meurtre, ça peut amener à des choses terribles. Il disait que c'était pour lui, c'était quand il voyait des patients qui venaient le voir parce qu'ils avaient un chagrin d'amour, pour lui c'était quelque chose de très sérieux. Et à prendre absolument, à ne pas prendre à la légère. Voilà ce que... J'avais lu ce commentaire. Ça m'avait... Eh bien, je vois que le film « Tu mérites un amour », c'est ça, quoi. Ça nous parle de ça. Et oui, elle ne voulait pas jouer dans le film, hein, mais elle n'a pas eu le choix d'interpréter elle-même Lila parce qu'elle nous dit que le film était autofinancé. Il est autofinancé, elle en est la productrice. Donc, elle ne pouvait pas demander aux équipes de travailler bénévolement 3 semaines d'affilée. On a donc tourné, dit-elle, 5 jours par mois. Et sur quelle comédienne pouvais-je compter avec une telle organisation ? Moi, oui, c'était plus simple. Je l'ai produit avec mon argent et je me suis débrouillée avec les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs. Tout le monde était adorable. J'aurais pu demander des financements, des aides, mais je ne voulais pas perdre de temps. J'avais envie de réunir une troupe et de réussir un défi personnel. Voilà, voilà ce... C'est pour ça qu'il fallait que j'en parle absolument. C'est un film délicieux. C'est vraiment... quand je dis délicieux, c'est-à-dire qu'il est tellement bien fait qu'il mérite absolument sa nomination et elle mérite ses prix, quoi.
Et on écoute la bande-annonce.
Tu mérites un amour. Oui,
ça,
merci.
C'est pas l'amour. C'est malade ou quoi?
Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
L'amour, c'est pas de se faire tromper, c'est pas d'être avec un menteur, un tricheur.
Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu l'as pas dit?
Une raclure comme lui, là. Tu fais du mal pour rien, on dirait t'aimes bien. Lâche l'affaire.
Je sais que t'as besoin de temps et je pense que j'en ai besoin aussi. Je vais partir en Bolivie, voilà, pendant 3 semaines.
Le vrai truc, c'est que tu l'oublies. C'est con à dire, hein, et que tu tombes amoureuse ailleurs.
Ça te dirait prendre mon numéro ou avoir un verre, quelque chose? T'as déjà été amoureuse?
Ah bah oui.
Comment tu le sais?
Il est parti faire le tour du monde et toi t'es resté dans ta dépression.
Il doit être en train de se branler sous une yourte.
J'ai plus jamais eu de nouvelles.
Il disait quoi?
Qu'on s'est connus dans une autre vie, tout ça.
Tu m'as dit ça, toi aussi.
J'ai envie qu'on se remette ensemble. Je t'aime encore.
C'est pas facile. Je suis pas toi, moi. Tu fais quoi?
Rien.
Tu mérites un amour, donc un film de Afzia Herzi.
Un beau film.
Ensuite, sur les films qui sortent cette semaine.
Ah oui, ah ben j'ai un film d'animation, une petite animation de 43 minutes. C'est français, ça s'appelle Un petit air de famille. C'est proposé par le CIP. Le CIP, c'est le cinéma indépendant parisien. C'est à partir de 3-4 ans, ma petite copine Aya va le voir. Et oui, ça tombe bien justement. La famille, ce n'est pas que du bonheur. Enfin, à condition de ne pas se disputer, ni de faire des caprices. Et si prendre soin des uns des autres, était la plus belle des aventures, hein ? 5 histoires de famille pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents. C'est 5 courts-métrages, explorer le monde avec ses grands-parents, jouer avec ses frères et sœurs, rêver avec les papas et les mamans. Très, très mignon, c'est joli comme tout. Ça va passer un peu partout, dans tous les cinémas de proximité, j'en suis sûre. Un petit air de famille. Allez, emmenez vos enfants, là, ils vont être tout contents. Et puis ensuite, j'avais une comédie dramatique, c'est un film allemand, ça s'appelle The Bras. The Bras, c'est, en fait, si on traduit, c'est le bon. Oui, c'est la traduction la plus simple. C'est l'histoire d'un conducteur de train. Le conducteur de train, Nurlan, se rend à Bakou pour la dernière fois avant sa retraite. En contournant les quartiers de la ville, son train arrache un soutien-gorge bleu à une corde à linge. Pour échapper à son existence solitaire, Nurlan se lance dans la plus grande aventure de sa vie, retrouver la propriétaire de ce sous-vêtement. Et alors, c'est un film de Veit Helmer, qui est un réalisateur, scénariste, producteur allemand de 51 ans, qui a déjà eu pas mal de nominations d'ailleurs dans sa carrière. Et alors, on a dans les acteurs, on a Paz Vega, on a Denis Lavant. Denis Lavant, c'est un acteur français. On ne le voit pas trop souvent, dommage, c'est un bon acteur. On a Shulpan Kamatova et on a Pedrag Miki, c'est son nom, Pedrag Miki Manojlovic, qui joue le rôle de Nurlan. Alors c'est vraiment, on nous dit, pour trouver l'amour de vos rêves, suivez son soutien-gorge. C'est très drôle, il n'y a pas de dialogue, mais c'est vraiment... Alors, il est formidable, ce film, vraiment. Hein. C'est quand même... C'est, en fait, ce train, dans le coin où ça se trouve, là, le train passe, il passe au milieu des rues, en fait. Et c'est pour ça que ça explique qu'il y a des vêtements qui sèchent, hein, qui sont suspendus là, sur une corde à linge, et que le train passe dessus, quasiment à côté, mais tellement près... que le soutien-gorge, qui est le premier accroché près du train, est arraché par le, par le, par la première voiture, c'est-à-dire celle où se trouve Norlan, justement, qui voit ce soutien-gorge, qui le prend et qui va passer après. Écoutez, le film dure 1h30, bah, il va passer 1h15 à chercher la propriétaire de ce soutien-gorge pour lui rendre et pour... Voilà, et pour et pourquoi d'ailleurs, hein, on ne dit rien. En tout cas, voilà, c'est un quartier de Bakou. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, hein, juste pour situer. C'est un quartier atypique, en fait. C'est ce que je dis, les voies ferroviaires sont construites près des habitations. En fait, c'est fou, quoi. Alors, c'est des rues et des aires de jeu pour les enfants. Le train passe là, comme ça. Et ça, la vie de ce quartier s'organise sur les rails. C'est quand même incroyable. Les habitants, d'ailleurs, appellent leur quartier Shanghai. Il n'y a aucun rapport avec la Chine, hein, mais c'est comme ça. Ils l'appellent Shanghai. Et alors, voilà, juste avant de sa retraite, cet homme-là, ça raconte le film, l'audacieuse quête de sa propriétaire. C'est fou, c'est pour ça que je voulais en parler. Il est joli, joli, joli. Oh, moi, dès qu'il sort en DVD, je le veux, ce film. Et le Pédrag, la Miki Manojlovic, qui joue le rôle, est quand même sensationnel. Voilà. Très, 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 très drôle, ce film. Ensuite, je voulais en parler parce que c'est un documentaire français sur une chorégraphe qu'on connaît. Enfin, depuis 2015, en fait, on commence à la voir un peu partout. Surtout à la télévision, évidemment, la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier, qui danse chaque jour avec la ville, les gens, les matériaux. Ces danses sont parfois traversées d'échos de la violence de l'actualité. Et ces danses distillent une douceur infinitésimale dans les espaces du quotidien. Ce geste poétique et engagé déplace le regard, invitant à rêver autrement le monde. Elle est incroyable. Hein. C'est de Jérôme Cassou, qui est un réalisateur, monteur, directeur de la photographie français. C'est un très, très beau documentaire sur Nadia Vadori-Gauthier. Elle fait de la danse l'étincelle d'un moment magique. Ça, je l'ai lu dans un journal, un grand, grand journal. Je ne peux pas citer, parce qu'on ne peut pas citer un journal par rapport à d'autres, mais je l'ai lu dans un très, très grand journal, très sérieux, un journal politique, qui parle d'elle comme ça. J'ai lu un autre titre, Mille et une danses, telle une Scheherazade. Et puis une autre aussi, une danseuse urbaine entrée en résistance. Et quelqu'un d'autre, pareil, assez important, une société assez importante, qui dit « Une minute de danse par jour, quel beau pied de nez à la barbarie ». Et une autre aussi qui dit « Elle ne danse pas pour elle-même, elle danse au milieu du regard des autres ». Ça dure 1h10, c'est magnifique. Une joie secrète. Le documentaire, si vous pouvez le choper, c'est vraiment très, très beau.
Très bien. Ensuite.
Alors ensuite, j'avais un drame policier russe, irlandais, lituanien et français. L'insensible, c'est drame policier. Il y a les deux. C'est l'histoire de Denis qui a grandi dans l'orphelinat où sa mère l'a abandonné. C'est un garçon spécial qui est atteint d'une maladie rare, le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l'emmène à Moscou, où celle-ci est associée à un gang de fonctionnaires corrompus qui extorquent de l'argent à des gens riches. Dès lors, il participe à leur manigance. C'est un film d'Ivani Tverdovsky, qui est un réalisateur, scénariste, monteur russe. Il a 30 ans. Il a un prix et 3 nominations. On a dans les rôles principaux Denis Vlasenko et Ama Siliu, qui sont des acteurs russes. Non, lui est lituanien, merci. Et elle est russe, Ama Siliu. Là, ça dure 1h27. Je trouvais que c'était pas mal du tout. En tout cas, je voulais le citer. J'avais également MJOLK. Mjolk, la guerre du lait. C'est un drame, comédie, c'est islandais. C'est pour ça que la prononciation de MJOLK, c'est quand même islandais. Hein. Alors on peut dire Mjolk, voilà, la guerre du lait. C'est Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l'entreprise familiale. Très vite, elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système mafieux pour imposer l'indépendance de sa communauté. Bah, que ce soit chez nous ou en Islande, j'ai l'impression que les soucis sont presque les mêmes, là. Ça laisse un peu rêveur. C'est de Grímur Hákonarson, qui est un réalisateur scénariste islandais. Il a déjà eu un prix et 10 nominations dans sa carrière. Et deux acteurs qui sont très connus chez eux, Arndís Rón Egilsdóttir et Bjarnstein Backman. Ils sont connus en Islande, ces deux acteurs. Je trouvais que ça valait la peine. En fait, le Grímur Hákonarson, le réalisateur, c'est un auteur et réalisateur islandais. Il écrit aussi des livres. Donc, il a commencé par des courts-métrages aussi, lui. Voilà. Donc, je trouvais que c'était vraiment... ce réalisateur connaît bien le souci, puisqu'il a grandi en milieu rural islandais. Et du coup, il s'est inspiré de son propre vécu et des gens qu'il a connus pour mettre en scène ce film. Il nous dit que ses deux parents ont été élevés à la campagne et j'y ai passé la majorité de mes vacances d'été pour y vivre et y travailler jusqu'à mes 17 ans. De ce fait, j'ai développé un goût pour les récits, les personnages et les paysages ruraux d'Islande. J'ai toujours été attirée par des histoires se déroulant à la campagne. Voilà pourquoi il est réussi d'ailleurs ce film. C'est qu'il connaît bien, très bien son sujet, ce réalisateur islandais. Mjok, la guerre du lait, ça dure 1h30. Ça peut intéresser quand même pas mal de gens de voir comment ça se passe en Islande par rapport à ce qui se passe chez nous, justement.
Et on va continuer.
On va continuer par un biopic, drame, comédie, c'est Music of My Life. C'est un film britannique. Ça se passe en Angleterre en 1987. Javed, un adolescent d'origine pakistanaise, j'allais dire le contraire, hein, je vais aller me reposer juste après l'émission, je pense. Donc c'est pakistanaise qui grandit à Luton, une petite ville qui n'échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l'écriture pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui. Mais sa vie va être bouleversée le jour où l'un de ses camarades lui fait découvrir l'univers de Bruce Springsteen, oui, c'est bien Springsteen. On le connaît, Bruce Springsteen, tout de même. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu'il ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voix. C'est un film de Gurinder Chadha, qui est une réalisatrice, scénariste, productrice britannique et kényane également. Elle a 59 ans. Ben oui, le Kenyan, c'est un pays d'Afrique de l'Est, hein, donc... Il y a un littoral, d'ailleurs, qui possède un littoral sur l'océan Indien. Donc, elle y est née. C'est pour ça qu'elle est kényane, mais elle est également britannique. Elle a déjà eu 12 nominations. Dans les rôles principaux, on a Vivek Khera et Hayley Atwell, qui sont des acteurs pakistaniens. On lui doit... Ah oui, justement, à Gurinder Chadha, cette réalisatrice, on lui doit Le dernier vice-roi des Indes, qui était sorti en juillet 2017, qui a eu 8 nominations avec Hugh Bonneville, et grand acteur britannique très connu. C'est l'histoire de Lord Lord Mountbatten, c'est pas facile à dire, Mountbatten. Ouais, c'est ça, Mountbatten qui était d'ailleurs, je crois, l'oncle préféré de Charles d'Angleterre. Là. Je crois que c'était son oncle préféré. Il a eu beaucoup de chagrin à sa mort, si je me souviens bien, on en avait parlé à l'époque. Et donc, Lord Mountbatten et Mountbatten préparaient les Indes à l'indépendance. Il a été envoyé pour ça. Et il a pris des décisions qui en fait... ont encore des conséquences aujourd'hui. Quoi. Enfin, il faudrait aller voir le film, hein, Le dernier vice-roi des Indes, ou lire le livre pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Allez, je le redis une dernière fois, Lord Mountbatten. Pas facile. Hein. Bon. Enfin, en tout cas, c'était une petite parenthèse sur un film magnifique hein, qui se trouve en DVD pour situer à peu près Gurinder Chadha, la réalisatrice. Quoi. C'était juste pour ça. Alors, Bruce Springsteen,
Bruce Springsteen.
Alors, on va parler, on va dire quand même que lui, c'est un Bruce Frederick Joseph Springsteen. Il est né le 23 septembre 1949 dans le New Jersey. C'est un chanteur, auteur, compositeur nord-américain. Eh oui, voilà. Il est l'un des artistes ayant vendu le plus d'albums aux États-Unis, avec plus de 64 millions d'albums écoulés. Il en a vendu plus de 130 millions à travers le monde. Voilà, il figure, selon le classement établi par le magazine Rolling Stone, il figure à la 36e place parmi les 100 plus grands chanteurs de tous les temps et à la 23e place des plus grands artistes. Il est classé 96e meilleur guitariste de tous les temps. C'était quand même pour expliquer pourquoi notre petit Javed, notre héros, cet adolescent héros du film, avait justement changé sa vie lorsqu'il avait découvert l'univers de Bruce Springsteen. Voilà, c'était pour expliquer ça. Effectivement, comme quoi un grand artiste peut faire évoluer la vie de quelqu'un.
Et ensuite...
Intéressant ça, 1h57. Et pour finir, un excellent film d'épouvante et d'horreur pour les grands amateurs. C'est un film américain et ça s'appelle Ça. Ça, hein, CCDA, c'est le chapitre 2. Ben, ça veut dire qu'il y a eu un ça, chapitre 1, on est bien d'accord. Il y en a eu un.
C'est le retour de ça.
C'est le retour de ça, exactement. C'est le cas de dire, hein. C'est le retour de ça, chapitre 2. Alors, c'est la suite hein, de ça, quand il dit, adapté du célèbre roman du même nom de Stephen King, qui est un auteur de ce genre d'histoire, mais un auteur fabuleux qui fiche les chocottes quand même, hein, même quand on lit ses livres, hein, ça fiche les chocottes. L'ouvrage avait déjà été transposé à l'écran dans un téléfilm à succès qui s'appelait Ça, voilà. Le deuxième, c'est en fait en 2017. Voilà, c'est en 2017, le premier film, Ça, est devenu le film d'horreur le plus rentable de tous les temps. Avec pas loin de, on reste assis, 700 millions de dollars de recettes au box-office international, alors que le budget était de 35 millions de dollars. Le bénéfice, j'ose même pas y penser. Ça a dépassé L'Exorciste et Sixième Sens, qui ont eu un succès fabuleux déjà. Voilà, donc c'était une très bonne affaire. Alors, le tournage de ça, chapitre 2, s'est achevé le 2 novembre 2018. Il y a eu 86 jours de prise de vue. Ouf! Et c'est toujours le même réalisateur, Andy Muschietti. Muschietti, je crois qu'on ne prononce pas le... Muschietti, hein. Réalisateur, scénariste, producteur argentin. Il a 45 ans, 3 prix, 6 nominations. Et on retrouve les mêmes, en fait. Dans ça, il y avait Bill Skarsgård, qui est un acteur suédois, hein, très, très, tout à fait mignon. Il était déjà dans le premier, on le retrouve là. Ensuite, on a Isaïe Mustapha, on a James McAvoy. Alors, James McAvoy était déjà dans le premier. On a une superbe actrice, Jessica Chastain. On a Jay Ryan aussi, 3. Et on a, alors là, c'est quand même plus étonnant, on a Xavier Dolan. Xavier Dolan a participé, et oui, il a voulu, lui, il a voulu participer, il a voulu... il a voulu, il interprète Adrian Mellon, jeune homosexuel de Derry. Voilà, en fait, dans la seconde partie du roman de Stephen King, l'intrigue de ce personnage jeune homosexuel de la ville et de son partenaire lance la partie contemporaine de l'histoire. Si ce rôle n'est pas majeur, il est symbolique de la violence à Derry, puisque le couple est victime d'une agression homophobe. Et oui, ça c'est important de le dire quand même, parce que je trouve ça un peu assez terrifiant. C'est quand même... ouf! En tout cas,
ça, chapitre 2, ça arrive.
Ouais, il a noté quand même que James McAvoy a aidé à créer une scène absente du roman de Stephen King. C'est assez rare ça quand même. C'est assez rare un acteur qui arrive à faire ça et qui est accepté surtout. Quand même assez rare. Ah mais j'ai pas dit, 27 ans après la victoire du club des ratés sur Gripsou, le sinistre clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Gripsou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le clown, devenu plus dangereux que jamais. Voilà, ça dure 2h45 et je pense que Damien avait peut-être une petite bande-annonce de côté, non ?
Allez, on l'écoute.
Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout.
Allez !
La santé des ratés.
On a fait un serment.
On le jure tous. Si ça est pas mort, si ça revient un jour, on reviendra aussi.
On n'a pas réussi à le battre.
Gripsou.
Le clone. On peut pas le laisser recommencer.
Il y a quelqu'un ?
Petit !
Il y a quelqu'un ?
Petit !
Bonjour.
Petit !
Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez tant manqué.
Il faut vaincre ça. Une fois pour toutes.
Je nous ai tous fait mourir. Ça nous dévore de l'intérieur. Et bientôt, on pourra plus y échapper.
T'as menti. Et je suis mort.
Voilà, voilà, voilà.
Sur ça,
on
voilà,
vous
voilà,
laisse
voilà.
Avec plein de cauchemars.
En fait, il a un succès monstre, ce film.
Mercredi prochain.
C'est un succès monstre. Hein, c'est... Oui, oui, alors tous ceux qui auront eu des malaises pourront s'exprimer, voilà. N'est-ce pas ? Et on a des versions restaurées, Beau-père, qui est sorti en 1981, La Grande Évasion, 1963, et Un Mauvais Fils, qui est sorti aussi, oh là là, en 1988, 84, je crois. Voilà, ça, c'est des films qui...
Bonne semaine à vous, et on se retrouve... Quoi ? Mais parle...
Oui, il faudrait leur dire qu'on a un petit souci pour les podcasts, pour les potes...
Oui, mais je non, là, j'ai trouvé une solution, pour donc les c'est bon.
Ah bon, leur dire juste pour...
On ne leur
ah
dit
bon,
pas, c'est pas la peine.
C'est pas la peine, bon, ouais. D'accord.
Allez, on se retrouve mercredi prochain.
Oui.
Et d'ici là, passez une bonne semaine.
Oui, passez une bonne semaine, mes amis. Bien sûr. Hein. Faites bien attention à vous. En attendant, n'oubliez pas d'aller dans les cinémas de proximité. Chaque fois, vous pouvez. Oh, y a quand même le choix. Hein. Vous avez un peu de tout. Je pense que vous en trouverez au moins un qui pourra vous faire plaisir. Voilà. Oui. Et n'oubliez surtout pas que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
aux yeux, tu sais.